Premièrement, donc moi je suis Virginie Lopez, je dirige Portuliège depuis 4 ans et demi, j'ai créé une entité dans les Bouches-du-Rhône, c'est une entreprise familiale qui a 21 ans maintenant. Mon père a créé l'entreprise. Et voilà, Portuliège parce que le liège vient du Portugal, parce que je suis originaire du Portugal, parce que ma famille travaille en Portugal, au Portugal, dans les bouchons, depuis des décennies. D'ailleurs, les noms des bouchons sont des personnes de ma famille, majoritairement des femmes. C'est aussi pour les mettre à l'honneur, ces femmes portugaises qui travaillent, sont des femmes avec du caractère, du tempérament, voilà, travailleuses. Donc ça, c'est pour la petite histoire de Portuliège. Et moi, on va juste faire un petit retour en arrière sur le liège. On retrouve le liège 400 ans avant Jésus-Christ. Et est-ce que vous savez dans quel domaine?
Pas sur les arbres.
Alors, oui, sur les arbres. Alors, on va dire, je reprends ma phrase.
Je reprends. Oui, bien.
Alors, en effet, le liège, on le retrouve bien avant, tu as raison, déjà 400 ans avant Jésus-Christ, mais on va dire... des objets faits par les hommes en liège, on en retrouve 400 ans avant Jésus-Christ. Comme disait Maud, dans la pêche, en fait, ça servait de flotteur. Déjà. Oui, on s'en servait pour la pêche, et puis après, dans l'histoire, c'est souvent resté autour du transport maritime.
Ah, c'est pour filets. Ça que la bouillabaisse, on la mange dans des...
Probablement, oui. Parce que...
Oui, et je vois un rapport.
Bah parce que j'imagine qu'ils devaient pêcher le poisson.
Oui.
Et ils devaient se le. Ils
avaient aussi, les... peut-être, si tu peux t'en servir comme plat.
Oui, oui, tout à fait.
Ils avaient les filets étaient en
ligne. Non, les filets, les flotteurs.
Les flotteurs,
mais il y avait aussi des parties du bateau. D'ailleurs, au XIVe siècle, à l'époque des explorateurs, le liège servait dans les constructions maritimes. Voilà, et c'est pour ça que le Portugal a décrété que les forêts du chênage étaient patrimoine national, qu'il ne fallait pas les toucher, il est interdit de couper un chênage au Portugal, parce que justement, à la source, ça servait pour les bateaux, pour l'exploration.
Ah, donc c'était les plus forts à l'époque.
Oui, donc il y a une histoire par rapport aux maritimes, et puis on l'a retrouvé bien avant le XIVe siècle, pour boucher des jarres qui étaient transportées aussi dans les
bateaux. Ça servait de bouchon.
Oui, on s'en servait.
Déjà.
Oui, exactement. En gros bouchon, ça c'était autour, déjà à l'époque romaine, okay. on retrouvait.
Mais on a, ça veut dire qu'on a retrouvé des traces de bouchons de pêche.
Oui. De liège.
De liège. Donc ici, il ne s'est pas complètement détruit.
Non, non, non. Bah, après, ça dépend de la conservation, comme on a retrouvé des bouteilles dans l'eau de mer, en Baltique, des bouteilles de champagne, le 17e, avec le bouchon en fait. Ça dépend des conservations. Avec un peu de chance, ça peut rester tout à fait. Et on retrouve vraiment le côté bouchon-bouteille, 17e siècle, où là, les Anglais vont inventer la bouteille pour pouvoir déguster et transporter. Et le premier qui a l'idée d'utiliser le liège, c'est... Est-ce que vous savez qui c'est? Vous le connaissez.
Dom Pérignon.
C'est Dom Pérignon.
C'est
Dom Pérignon.
J'avais lu, j'avais juste inventé le muselet.
Non.
Je croyais qu'il avait juste inventé le muselet.
C'est ça qui a eu l'idée du liège.
Okay.
Ah, parce qu'à l'époque, on le fermait avec du bois et un tissu, les bouteilles.
Oui.
Avec un bout de bois qui allait avec du tissu. Ah. Et donc, il a eu l'idée d'utiliser le liège parce que c'est souple.
C'était un moine, il avait le temps.
Oui, c'est ça. Et puis,
il s'est inspiré.
C'est important du liège. Divine.
Divine. Divine.
En Champagne. Du liège, c'est pas du sol.
Alors, non. Non. Donc, où est-ce qu'on va retrouver du liège? Quelles sont les régions que vous connaissez où vous avez vu du liège?
Des chênes
liège.
En Provence.
Des arbres.
En Provence.
Cette fois-ci, hein.
Provence.
Oui, en Provence.
Espagne.
Oui, Espagne.
Portugal. C'est pas le bassin méditerranéen.
Oui, on retrouve tout le bassin méditerranéen, l'Italie, le nord du Maghreb, l'Espagne et le Portugal, qui n'est pas dans le bassin méditerranéen, parce que voilà, c'est l'Atlantique, et le Portugal. Et on le retrouve en France, sur la côte atlantique sud. On en retrouve aussi vers Perpignan, Pyrénées-Orientales, il y a quelques forêts. Et dans la Vallée des Morts, c'est là où on a la principale forêt en Provence. Mais on n'a pas de quantité suffisante en France pour répondre à la demande française de bouchage, mais aussi on n'a pas la qualité, parce que le terroir est plus propice au chêniage au Portugal qu'en France.
Il y a aussi une notion de terroir là.
Oui, il y a une notion de terroir, de climat.
Oui.
On a des sols sableux.
Sol sableux,
ouais.
Pas de calcaire.
C'est ça.
Pour que le chêne pousse.
Oui.
Pour que le chêne liège pousse.
C'est ça.
Le chêne liège. Et comment on sait quand on peut le récolter?
Alors il y a une saison, en fait, ça se récolte, là ça démarre, ça a démarré déjà, mai, juin, juillet, août. Il faut pas qu'il fasse trop chaud non plus. Donc l'an dernier par exemple, ça a été gênant parce que c'était trop sec. Pas chaud, c'est plutôt sec. Mais c'est plutôt une saison et après on les récolte tous les 9 ans. Alors tous les 9 ans, c'est le délai, la période qui permet d'avoir un bon liège et d'être rentable quand on a une exploitation.
D'accord.
Parce qu'on peut aussi, selon le terroir, on peut allonger cette période. Par exemple, on peut aller jusqu'à 13 ans, 15 ans et retrouver de très belles qualités. Ça dépendra du terroir sur place. Au Portugal, il se trouve que la période, c'est 9 ans. Donc en fait, quand ils écorcent, vous avez peut-être dû voir déjà les chiffres. Ils mettent l'unité de l'année. Donc par exemple, là, 2023, ils vont mettre un 3. Et ils savent que 9 ans après, ils pourront récolter. Le 3 sera visible sur l'écorce.
Ah, oui.
C'est leur technique pour gérer les récoltes.
Tu savais ?
J'ai visité une forêt et une usine de fabrication.
Alors, comment on appelle une forêt de chêne-liège ?
Un suberet.
Oui,
une suberet.
C'est quoi ?
Je vais lire, moi.
Non, mais je pense qu'on en a déjà discuté. Une suberet. Suberet. S-U-B-E-R-A-I.
C'est marqué là ?
Et peut-être.
Et pourquoi suberet ?
Alors pourquoi suberet ?
Moi je sais.
C'est marqué là.
En fait, le suber, en fait, c'est l'écorce externe de l'arbre.
Oui.
C'est la dénomination de l'écorce externe de l'arbre.
Voilà. Et l'arbre, du coup, l'arbre chêne-liège qu'on utilise pour faire les produits, ça s'appelle le quercus suber.
Ah d'accord.
Il y a aussi de ça. Et il s'appelle Suber parce qu'on récupère l'écorce que tu dis. Donc en fait, le quercus Suber a donné le nom de Suberet. Après, vous verrez, parfois on appelle ça les montades parce qu'il y a des forêts exploitées, d'autres non exploitées. Au Portugal, du coup, on donne de différents noms. Voilà. La Suberet, c'est le terme français approprié. Donc comme je vous disais, c'est protégé patrimoine national depuis le Moyen-Âge. Au Portugal, c'est un très grand pourvoyeur d'emplois. Parce que tout le monde travaille de manière directe ou indirecte, parce qu'on exploite dans le sud et on transforme dans le nord. Donc tout le monde a quelqu'un qui travaille dans le liège, soit il transporte, soit il transforme, soit il récolte, soit il est ouvrier. Voilà. Les ouvriers, c'est travailler dans la filière liège, c'est un honneur pour les Portugais. Et les ouvriers agricoles, ce sont les ouvriers agricoles proportionnellement au salaire du pays, les mieux payés au monde. C'est très technique, c'est un savoir qui se transmet, il faut avoir un outil, ça vient. Oui, et voilà. Donc, pour revenir au côté nature, ce qui est important, c'est de savoir aussi, c'est que quand vous utilisez du liège, en fait, quand vous utilisez du liège en tant qu'objet de décoration, mais aussi comme bouchage, vous permettez aux forêts d'exister, parce que c'est parce qu'il y a commerce du liège qu'il y a forêt, et ces forêts font partie des puits de CO2. C'est 14 millions de tonnes de CO2 capté par an par 2,2 millions d'hectares de forêt de chêne-liège.
T'as des études là-dessus?
Ça, je peux
y a des documents. Alors, c'est parenthèse, c'est dans le cadre d'une certification, j'arrive pas à trouver l'information sur le CO2 capté par les forêts. Donc, si jamais tu as.
D'accord, je vais voir. C'est vrai que moi, c'est une information que j'ai dans un document, mais j'ai pas l'étude. Mais okay. Je peux essayer de demander.
Si tu as une idée.
Ouais. Oui, je peux essayer de demander. Je le ferai.
Combien t'as dit de
14 millions de tonnes de CO2 par an.
Parce que si on n'enlevait pas l'écorce aux arbres, ils étoufferaient.
Non, c'est que les forêts, ça dirait autre chose que des chêne-liège.
D'accord.
En fait, à partir du moment où c'est une exploitation, c'est comme si c'était des fruitiers ou c'est comme si c'était de la vigne.
Voilà.
Tu exploites, donc ça veut dire que tu en prends soin, ça veut dire que tu fais attention
à ce
que tu replantes, tu fais attention au dépérissement, tu vois, il y a aux maladies,
d'accord,
etc. Donc c'est une exploitation.
C'est ça. Et le fait d'exploiter, de ne pas laisser à l'état sauvage, ça augmente la captation du CO2. Parce qu'en fait, le fait d'exploiter, tu enlèves l'écorce. Donc du coup, tu demandes au chêne-liège de retravailler, de reproduire de l'écorce. Donc il augmente son métabolisme et il capte encore plus de CO2. Donc une forêt exploitée capte plus de CO2 qu'une forêt sauvage de chêne-liège. Sauvage entre guillemets.
Oui.
Voilà.
Ça veut dire que
cette industrie-là du liège,
ouais.
elle, elle est positive en termes de CO2 dégagé.
Oui.
Enfin, de bilan carbone.
Alors, ce qu'il y a, c'est que après, il y a la production, il y a la transformation.
Oui.
Qui là, si tu veux, va provoquer un effet négatif. Donc il y a des produits qui sont négatifs en termes de CO2, il y a des produits qui sont équilibrés. Tous les produits qui utilisent les scories, les chutes de liège, ils sont négatifs, la majorité. Puisque en fait, on ne compte pas l'extraction de la matière, puisque c'est déjà un déchet. Tu vois. Par contre, un bouchon à liège naturel, voilà, qui lui, on va calculer son taux de CO2 et il ne sera pas négatif en termes de CO2. Mais ça fait partie quand même dans les solutions de bouchage. Ce sont les solutions de bouchage les plus écologiques en termes de CO2, en termes de tout en fait. La seule chose, c'est qu'il y a une consommation d'eau pour les lavages, les désinfections, etc.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est le seul point sur lequel a travaillé déjà quand même la filière Liège. Donc c'est déjà bien avancé, puisqu'il y a la réutilisation des eaux, etc. Mais sinon, en termes de CO2, de pollution, c'est l'industrie la plus clean en termes de bouchage. Comparé au plastique et à l'aluminium.
Et ça s'arrose, ça s'irrigue.
Non, c'est pas les forêts, c'est
climatique.
C'est pas trop irrigué. Enfin, c'est un peu comme toute cette exploitation, c'est-à-dire que quand tu plantes, tu vas irriguer au début, mais après, tu irrigues plus. C'est plutôt à la transformation du bouchon. C'est là que tu vas consommer de l'eau, parce qu'il va falloir laver l'écorce dans des bains. Il va falloir désinfecter avec de la vapeur d'eau, et là il y a consommation d'eau pour enlever les tanins, enlever les arômes. Donc c'est dans cette partie-là qu'il y a une consommation d'eau.
Et est-ce que l'eau est importante pour toi par rapport au cancer, par rapport
à... Alors oui, parce que vous verrez, l'eau, il faut pas qu'elle ait de chlore, donc il y a quand même un traitement avant. Donc oui, l'eau est une partie très importante dans la production de bouchons. C'est un point sensible. Ouais.
Et sur les suburées, il n'y a pas de traitement ou...
Alors il peut avoir des traitements antifongiques. Ouais. C'est pour ça que nous, par exemple, on se fournit en liège issu de l'agriculture biologique, Ecocer. Donc il n'y a pas de traitement en fait sur cela. C'est même pas qu'il y a un traitement bio, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Mais oui, il peut avoir des traitements antifongiques. Majoritairement, c'est plutôt les champignons le problème. Pourrait être retrouvé dans les forêts de chêne liège. Donc il peut avoir des traitements. Après, il y a des forêts qui ont fait la démarche d'être certifiées Ecocer. J'oserais dire pour le chêne liège, c'est pas très compliqué. Si tu veux, il n'y a pas. Enfin, voilà, il faut prendre une décision. C'est-à-dire que si tu as une écorce qui est abîmée, ils vont s'en débarrasser. En fait, ils vont partir dans autre chose, mais ça ne partira pas dans la filière bouchage.
Voilà. Oui, parce que le champignon, il n'a pas de l'écorce.
Oui, c'est ça. Ou parfois, tu peux avoir aussi trop de... Si tu as un déséquilibre, avoir un déséquilibre avec les fourmis, les vers qui font trop galerie, ça t'abîme la matière première, en fait. Mais après, c'est comme tout, du moment où il y a une biodiversité, où il y a un équilibre, globalement, tu peux avoir des galeries de vers, mais ça va être raisonnable.
Et donc, le traitement de l'eau, il se fait... les usines, les entreprises qui font des bouchons, ont sur place un appareillage,
une filière pour traiter l'eau. Ouais. Ouais. Et on va en reparler, je te dirai pourquoi il y a un traitement particulier. Alors, je vais vous parler des lenticelles. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, pour celles qui sont vigneronnes, peut-être qu'il y a un mot qui ressemble, c'est radicelle.
Oui.
Ah. Ouais. Et donc en fait, il y a les lenticelles, alors c'est pas tout à fait la même fonction. Ce sont les petites aspérités que vous pouvez voir sur les bouchons, vous pouvez voir sur l'image là, que je vous ai donnée. Vous avez en image deux bouchons. Et qu'est-ce que vous pouvez constater en fait?
Il y a des trous et d'autres, il n'y a pas de trous.
C'est ça. Donc vous avez des trous sur le deuxième choix, qui va être un entrée de gamme. Alors il faut savoir que dans les écorces, il y a... c'est assez hétérogène en fait. Et donc une écorce va donner une qualité de liège. Et on peut descendre jusqu'à du sixième choix. Alors moi, j'ai fait le choix de ne pas descendre en dessous du deuxième choix. Mais par exemple, les troisième, quatrième choix, quand on descend dans la qualité, peuvent servir à faire d'autres bouchons, à faire des colmatés, etc. Parce que l'intérêt aussi pour une exploitation familiale, c'est de tout utiliser, de ne pas perdre de la matière. Donc là, je vous montre le deuxième choix, c'est-à-dire vraiment l'entrée de gamme. Que nous commercialisons, le franc semina et le fleur. Et en fait, on peut voir que dans le deuxième choix, dans l'entrée de gamme, vous allez avoir beaucoup plus de lenticelles. Ces lenticelles, Ce sont des petits trous, en fait, qui permettent à l'arbre de faire des échanges avec son environnement. L'anticelle, c'est un petit trou qui permet de... C'est un trou, un stri, un trait, ça présente plusieurs formes sur l'arbre et ça permet de faire des échanges avec, avec la forêt. Et donc on le retrouve dans l'écorce et donc on le retrouve dans le liège, parce que quand vous, vous utilisez un bouchon en liège, il faut savoir que c'est un emporte-pièce. C'est un produit qui est assez brut, il n'est pas beaucoup transformé, en tout cas pour le liège naturel. Et du coup, vous retrouvez comme l'écorce était en fait. Après, il est poli, il est remué, etc. Voilà, comme ça. Donc là, vous avez, par exemple, j'ai raison de... Vous avez...
En fait, vous le découpez comme ça.
Oui. Alors en fait, là, tu as une écorce, tu vois, et on voit les lenticelles, là, par exemple.
Ouais. Ah, voilà.
Alors, voilà, on va retrouver. Donc là, on a l'écorce, ils écorcent. Ouais. Ils ont une hache très particulière pour écorcer, pour ne pas blesser l'arbre, et en même temps, pour ne pas casser les écorces. Et après, on coupe ce qu'on appelle des bandes. Donc en fait, il y a tout un procédé de stabilisation pendant 18 mois, sous préau, etc. et tout, pour éviter les problèmes de qualité. Et après, quand on est dans la phase transformation, on coupe en bandes. Et après, vous avez des ouvriers qui percent en fait avec un... qui tube, on appelle ça tuber.
Donc on est d'accord que là, le liège, il est sec.
Oui.
C'est 18 mois après avoir séché.
Alors, il y a une phase de stabilisation, c'est-à-dire que quand on récolte l'écorce, les préconisations c'est 6 mois et notre fabricant il fait 18 mois pour être sûr vraiment, pour éviter les problèmes, tout ce qui est liège vert, c'est-à-dire des lièges qui sont trop jeunes, qui ne peuvent pas être utilisés, qui risquent de se rétracter, etc. Donc ça part 18 mois en séchage. L'avantage c'est qu'on travaille avec, tu peux le faire passer, on travaille avec un préau qui permet de pas être, aux écorces de ne pas être mouillées par la pluie, mais tout le temps en séchant. Après, ça va être lavé et bouillanté, et ça resèche 3-4 semaines dans une chambre froide. Et à la sortie des chambres froides, il y a encore un tri, et après on coupe en bandes. Et après, vous pouvez voir sur Instagram, j'ai un réel où on montre comment on tube. Vous pouvez aller regarder dans les réels, et il y en a un où on montre comment un ouvrier, en fait, tube.
Par exemple, là, je ne peux pas faire des pleines fleurs.
Exactement. Il y a des écorces qui vont donner des deuxièmes choix, il y a des écorces qui vont donner des pleines fleurs.
Et le liège fleur, c'est le haut de gamme.
Exactement. Le liège fleur, c'est le haut de gamme. Vous pouvez le voir là dans la boîte, par exemple. On voit carrément, on voit le deuxième choix et on voit le fleur. Voilà. Vous voyez la différence.
Entre haut de gamme et deuxième choix, par exemple, il y a une différence de qualité, ou alors oui. C'est juste esthétique?
Alors, non, il y a une différence de qualité. Pourquoi? Parce que plus il y a de lenticelles, ces petits trous, moins c'est dense. Et nous, ce qu'on recherche dans un bouchon, c'est qu'il soit dense. Il soit dense, pourquoi? Parce que l'étanchéité, alors il faut savoir, ça c'est une donnée très importante, c'est que l'air ne passe pas à travers le bouchon. Je parle du bouchon en liège naturel, hein. Je ne parle pas des bouchons techniques, agglomérés, etc. L'air ne passe jamais à travers le bouchon en liège naturel. Et ce n'est pas souhaitable. Donc, notre objectif, c'est que ça soit complètement étanche. Parce que l'air, il passe entre le bouchon et le verre.
Oui.
Donc si nous, on ne veut pas qu'il y ait l'air qui passe, pour éviter l'oxydation, pour ne pas accélérer un vieillissement, on veut un bouchon qui est dense, qui colle aux parois.
Oui, d'accord.
Donc ça, c'est la première chose. Donc on va prendre un liège haut de gamme. Et même quand on est dans le haut de gamme, on peut même demander une écorce qui est dans une montagne qui s'appelle Manchic, qui fait des écorces très denses, parce que c'est en montagne. Donc même là, on peut encore, dans les grands vins, on peut sélectionner. On a des machines qui calculent la densité, qui calculent la masse, en fait, et qui nous permettent d'avoir une commande, par exemple, qu'avec de la haute densité. Alors, on va le coupler à autre chose pour des vins de garde, hein, mais c'est un premier élément, c'est-à-dire que quand on veut un bon bouchon qui bouge bien, on va prendre déjà un vin qui a un bouchon qui a une bonne densité. Donc on ne va pas prendre un entrée de gamme avec des lenticelles, on va prendre plutôt celui-là de fleurs. On va aller vers la fleur, pour être dense, quoi.
Là, tu parlais d'une tuberaie en montagne.
Oui.
Ça veut dire que l'altitude a un impact sur la qualité du liège et
oui.
Sur la densité du liège.
Oui.
C'est l'altitude.
Oui.
Ok.
L'altitude et aussi le terroir lié à l'altitude.
Et le
sol.
Okay.
Voilà, qui va avoir un impact.
Donc.
Et l'hydrométrie.
Ouais.
Il n'y a pas que la pression. C'est un ensemble.
Ok.
Ouais.
Il pourrait avoir des des fleurs, du coup il faut prendre des arbres qui sont dans. Enfin, c'est pas des.
Ils ne sont pas forcément dans cette montagne là.
C'est pas des qualités d'arbres. Ce n'est pas des arbres, des écorces qui poussent par exemple dans 6 ans au lieu de 3 ans.
Non, en fait ça va être lié à l'exploitation, à la manière dont l'exploitant va aussi bien exploiter sa forêt aussi.
Ça pousse trop vite en fait.
Alors non, ça dépendra, oui, il y a un peu de l'âge aussi de l'arbre. Il y a aussi de l'âge, parce que ça va donner différentes épaisseurs, et dans les épaisseurs, on va avoir plus de lentisselle que d'autres. C'est assez multifactoriel, et il y a aussi une notion de terroir, et encore, parce que quand même, c'est sur une large région, hein, les Suberées, entre au Portugal, ça va du sud jusqu'à au nord de Lisbonne, et presque jusqu'à Porto. Donc il y a aussi une notion de terroir pour avoir des qualités de liège. Donc ça, c'est la première chose, c'est que quand il y a beaucoup de lenticelle, on va perdre en densité. Donc quand on veut un vin de garde, il va falloir réfléchir à déjà la première notion, qui est la qualité de liège.
Et quand tu disais que vous récoltez tous les 9 ans, ça veut dire que vous récoltez combien, quoi, ça c'est l'épaisseur classique, quoi. J'imagine que vous avez plusieurs épaisseurs en fonction de la longueur du bouchon qu'on veut avoir. En fait.
Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a des écorces, par exemple, moi j'ai un client en Rome qui fait du rhum arrangé, qui met ses fruits dans la bouteille. Donc il a un col assez large. Pas toutes les écorces peuvent boucher ses bouteilles. Donc il faut, dans ces cas-là, on anticipe, nous, et on achète des écorces qui sont spéciales. Si on ne les a pas sur l'exploitation qu'on a choisie, on va acheter sur le marché une écorce vraiment épaisse et on va la mettre de côté pour ce client-là. Donc on peut pas, c'est pour ça que sur des jarres par exemple, vous aurez difficilement un bouchon d'une seule pièce. On peut coller des pièces naturelles ou on peut faire de l'aggloméré, mais l'écorce elle a sa limite. Et il y a des écorces qui carrément ne peuvent pas donner de liège naturel. On va les utiliser pour faire de l'aggloméré. Parce qu'on ne peut pas rentrer, tuber un bouchon.
Ah oui, c'est trop dur.
C'est trop fin. Parce qu'il y a des arbres, au bout de 9 ans, ça sera toujours fin, parce qu'ils sont jeunes, parce que le terroir ne permet pas d'avoir de belles écorces.
Comme nous, en fait. Oui. Il faut attendre les jeunes plantations.
C'est ça. Mais on va quand même l'exploiter, même si elle est jeune, au bout de 9 ans. Alors, le premier écorçage, c'est 20-25 ans. Et après, 9 ans après, on fait le premier écorçage, et la qualité, elle est pas au rendez-vous. Donc, on s'en sert pour faire l'aggloméré. Après, on fait encore un deuxième écorçage. Donc à la fin,
rendu à 48 ans.
C'est ça. C'est aux 48-45 ans qu'on va pouvoir extraire l'écorce qui deviendra un bouchon. Donc quand vous avez une bouteille de vin avec un liège, vous savez que ce liège il a déjà 9 ans et que l'arbre il avait au moins 45 ans.
Et quand tu il a déjà 6
ans
et des poussières. Tu récoltes plusieurs tranches,
enfin, non, écorce. C'est qu'une écorce.
C'est une seule écorce.
Oui, ce que tu as vu, c'est une seule écorce.
Mais là, tu en fais plus. Ce qui me trouble, c'est que là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu récoltes au début, tu as pas mal de lenticelle.
Oui.
Donc, si tu veux avoir de la fleur entière, est-ce que une fois que tu as retiré la première couche, tu peux reprendre une deuxième couche?
Non, en fait, c'est une écorce, tu vas l'extraire, ouais. Et tu vas voir de suite, ça va être du deuxième choix, du premier choix, la fleur.
Waouh! C'est vraiment, quoi, c'est impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant quand j'ai visité, de voir comment ils taillaient. C'est un métier qui est complètement dingue. Avec leur hache, ils taillent avec une précision. Ça n'abîme absolument pas l'arbre. C'est taillé et ils prennent des grands morceaux qui viennent tout seuls en fait, parce que tu as le tronc de l'arbre et puis tu as cette partie-là, l'écorce, ça se détache en fait à partir du moment où c'est bien taillé. Il n'y a pas de coupure dans l'arbre, etc. Et c'est des grands morceaux, et effectivement, tu vois d'un arbre à l'autre l'épaisseur de l'écorce et tu vois la qualité. De la tranche tout de suite, quoi.
C'est ça.
D'accord. Il n'y en a qu'une, en fait.
Donc, oui. Et là, vous pouvez encore aussi voir, il y a la vidéo de notre site internet, sur YouTube, je ne sais pas, mais en tout cas sur Instagram, les réels, il y en a où on montre sur un court temps, du coup, c'est des réels, des corsages, et tu vois la technique, en fait, qu'ils ont, voilà. sur, pour écorcer.
J'ai une question.
Ouais.
Mais peut-être j'en avance, mais comme
mais je l'ai dit, vas-y, vas-y,
j'ai l'impression que dans les bouchons de cette boîte-là, il y a deux sortes de bois, enfin oui, de liège.
Oui, oui, parce que ce que tu me montres, c'est le bouchon pour les effervescents.
Oui, c'est marrant. Je l'avais reconnu.
Et en fait, le bouchon pour effervescents, on peut les faire d'une pièce, on les colle en fait, en naturel. Mais pour le coût et puis par rapport à la matière, on utilise des agglomérés.
Et des agglomérés de liège
De l'aggloméré de liège. Donc ce que tu vois en haut, c'est l'aggloméré de liège. Ce qu'on voit sortir de la bouteille de champagne, c'est l'aggloméré de liège. Mmh. On peut s'arrêter là. On peut faire un bouchon de champagne, enfin de champagne d'effervescent, qu'avec un aggloméré de liège. Après, si on veut faire un vin de qualité mieux obturé, ce que je vous disais, le côté élastique du liège naturel, si on veut mieux obturer, si on souhaite que le vin soit en contact qu'avec du naturel et pas avec de la colle, parce qu'il y a la colle alimentaire quand même, mais il y a de la colle, on va mettre des disques de liège. Et là, ça sera des disques de liège naturel. Et après, tu peux en mettre un, tu peux en mettre deux, tu peux en mettre trois.
J'ai vu, il y a un autre bouchon qui en a deux.
Oui, voilà.
À chaque extrémité. Mais alors, c'est ça, c'est un bouchon effervescent.
C'est un bouchon pour le vin, c'est un bouchon technique. En fait, c'est la même technique que pour le champagne, mais pour le vin, donc un bouchon plus petit. Et là, on va mettre un disque de chaque côté. Et comme pour la mise en bouteille, on peut pas, enfin on peut, mais c'est compliqué, ouais, de choisir le miroir. On met un disque de chaque côté pour qu'il y ait du liège naturel qui colle bien aux parois et qui fasse l'étanchéité en fait. Et qui permette au vin d'être en contact qu'avec du liège et pas avec de la colle.
On voit aussi parfois des bouchons, non, ça n'a rien à voir, mais tu vas peut-être nous expliquer peut-être après aussi.
Oui, oui, je te dirai.
C'est pas la bonne question. Qui sont plus en liège naturel, mais en espèce de plastique ou je sais pas quoi.
Oui, ça se fait aussi.
Taille de rosé ou
oui,
truc comme ça,
un peu bas de gamme.
Bleu,
hein,
des bouchons bleus.
Le
chenille. Ah, mais le liège, tu peux avoir tu peux choisir ta couleur aussi.
Oui, c'est ce que vous avez fait, vous.
Non.
Mais tu peux, en effet, il existe d'autres bouchages. Le synthétique, tu as le synthétique, il y en a maintenant qui font des mélanges synthétique-liège, et tu as aussi la capsule aluminium. Donc dans le bouchage, il y a plusieurs solutions, et dont le plastique.
Et qu'est-ce que le plastique, ça. Il n'y a pas le listel, comment ça s'appelle, l'anticelle.
Ah non, ça n'a rien à voir, l'anticelle, c'est vraiment lié à la matière naturelle, ouais, du liège, vraiment.
Et là, le plastique, ça fait moins respirer le vin, c'est aussi.
Et en fait, le synthétique, ça. Bon, déjà, il y a si on s'arrête à la partie production, on n'est pas dans les mêmes valeurs.
Ben oui.
Ensuite, au niveau garde. Le liège, il a parmi tous ses avantages, il a celui d'être élastique et de reprendre sa forme. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reprenne sa forme pour qu'il colle aux parois. Et ça, pour l'instant, il n'y a aucun autre produit qui arrive à l'imiter.
Le plastique.
Voilà. Donc, le liège, pour l'instant, reste. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on peut avoir une très bonne chose et une moins bonne chose avec le liège, parce que c'est une pièce naturelle, donc ce n'est pas aussi homogène qu'une pièce produite en plastique ou que même un bouchon en liège technique, c'est beaucoup plus homogène. Donc après, d'où l'intérêt d'avoir une usine qui respecte quand même certaines chartes, Syste Code notamment, pour vraiment être le plus homogène possible. Et ensuite, si tu veux vraiment un bouchon qui soit homogène, qui assure le bon travail, il faut prendre une bonne qualité de liège. Et ça, c'est le meilleur bouchage. Le plastique, il ne fera pas ce travail-là sur 20 ans. Enfin, pour l'instant. Alors, il y en a qui disent que oui, peut-être, voilà. Mais dans ces cas-là, on ne se rejoint toujours pas sur le plan valeur-production. Mais après, c'est un choix. Pour les vins de consommation rapide, ça peut s'entendre.
Mais voilà. Oui. Mais les vins de garde, tu ne les vois pas avec des bouchons de plastique.
Non. Voilà. Mais les vins à consommation rapide, il y a une solution en liège aussi, qui est moins chère ou même prix. Voilà, donc en fait, le plastique, si tu veux, il est arrivé il y a 20 ans, au moment où il y avait des problèmes avec la filière Liège, qui était, voilà, c'était justifié, il y a une vingtaine d'années, il y avait des problèmes de régularité, il manquait de matière, etc. Donc le plastique, il est arrivé à ce moment-là. L'avantage de la concurrence, c'est que ça fait bouger, et du coup, le Liège, il a eu peur, il s'est bougé, ils se sont améliorés. Donc maintenant, le plastique est en train de reculer, parce que le Liège, on retrouve l'aspect économique, fonctionnel, valeur, on arrive à avoir tout ça dans le Liège. Voilà.
Et naturel.
Ouais. Le plastique, ça, le liège parfois ça donne un goût de bouchon. Le plastique ne peut pas donner de goût de bouchon.
Non, il ne peut pas donner de goût.
Un goût
il ne peut pas le donner, bouchon, mais le fameux goût de bouchon. Mais il peut donner d'autres goûts, mais il ne peut pas donner
d'autres goûts.
Et le fameux goût de bouchon, il vient de quoi alors du coup?
Alors, on peut le faire. Et puis on en a. Alors, le goût de bouchon, sa définition, parfois vous l'entendez, c'est PCA.
Oui.
Mais le goût de bouchon qu'on reconnaît, type église, moisissure et tout, c'est le 2,4-6 trichloroanisole, parce qu'il y en existe plusieurs. Et celui-ci, en fait, il est lié à la transformation par des moisissures qui sont présentes dans l'arbre, du chlore en trichloroanisole. Et ça donne le goût de bouchon.
C'est ce qui est donc présent dans l'arbre déjà.
Oui.
Mais c'est naturel. Hein.
Mais ce TCA, tu peux le retrouver dans du bois, dans des éléments naturels, puisque c'est une moisissure qui transforme son environnement en TCA en fait.
Et du coup, il se retrouve dans le vin.
Oui, et tu peux aussi en avoir dans le vin, parce que le vin peut avoir été contaminé. Voilà, dans la cave, tu peux avoir été contaminé par autre chose.
C'est pour ça qu'ils ont
même chose que
le
chlore,
en fait.
Exactement. Exactement.
C'est pas la même bactérie.
Pour lutter.
Le chlore, en effet, moi quand j'avais fait mon stage, il m'a dit non, tu ne mets pas de.
Mais c'est pour ces raisons-là. Parce qu'en fait.
Il y a plusieurs raisons.
Oui,
mais entre autres. Et peut-être aussi les charpentes en bois, parce que la charpente en bois pourrait apporter des moisissures.
La moisissure, elle est dans la charpente en bois, et si tu laves avec du chlore, en fait, c'est là où tu peux avoir l'apparition du goût de bouchon.
Sur les moisissures, c'est ça. Donc en fait, vu que c'est une moisissure et le chlore qui donne le goût de bouchon, pour éviter ça, il faut lutter contre les moisissures
et
contre le chlore.
Ouais, mais comment tu veux lutter contre les moisissures dans l'arbre?
Alors, dans l'arbre, on
fait
le chlore, déjà, nous, dans la filière, on a réglé le problème avec l'eau, parce qu'il pouvait avoir du chlore. Non. Donc, en fait, on traite l'eau pour éviter qu'il y ait des résidus de chlore. Donc, il y a tout un équipement au niveau de l'eau pour ça. Et ensuite, les moisissures, dans l'arbre, tu ne peux pas gérer. Donc, ce que tu vas faire, tu vas le gérer pendant la phase de production. Donc déjà, c'est ce que je vous expliquais, le fabricant, il a le plus grand préau du Portugal, 4200 m2. Les écorces, elles stabilisent pendant 18 mois, sans eau, puisqu'elles sont recouvertes, et à l'air.
Oui.
Donc tu sèches, donc tu luttes contre les moisissures, contre l'humidité. Ensuite, on fait les bains, mais ça tout le monde le fait, c'est les bains dans lesquels on lave, on nettoie, on enlève les tanins, on enlève les impuretés du liège. Et ensuite, ça part en séchage, en chambre froide. On s'est rendu compte que l'hiver, on avait moins de goût de bouchon. Voilà, parce que le froid, en fait, bloquait le développement de cette moisissure.
Forcément.
Voilà, donc du coup, exactement, on fait sécher 4 semaines une immense chambre froide, et pendant ce temps, on a les ouvriers qui traitent, et voilà. Donc ça, c'est une partie. On agit énormément en prévention. Déjà, nous, maintenant, avec ce préau et tout ça, on sort déjà à des taux indétectables par l'homme, juste à la sortie de l'écorce. Après, tu as la partie désinfection, donc il y a la désinfection classique, peroxyde, et nous, on est comme on est en bio, on a la volonté de continuer dans ce procédé, donc on fait un choc thermique à base de vapeur d'eau pendant 48 heures, on utilise la vapeur d'eau pour désinfecter. Donc là, tiens, là c'est le traitement, on est dans la phase prévention avant, là on est dans le traitement, et bien sûr il y a les contrôles de l'eau en permanence, il y a un laboratoire, nous on a un chromatographe, alors chez mes confrères ils s'en servent pour le sang de bouchon, nous on s'en sert comme laboratoire, et une fois que tu as fait toutes ces étapes-là, pour détecter le TCA, le bouchon, on termine par la S-Innov, c'est l'aromasse et roulance à innovation. Donc en fait, chaque bouchon, on pulvérise de la vapeur d'eau dessus, on fait chauffer le bouchon, on a une machine qui est brevetée, et à la sortie, on a des nez humains, qui sont des femmes, ça va être des femmes qui sont formées, et qui restent 2 heures sur poste, et qui sentent chaque bouchon.
Waouh!
Et donc tous les bouchons, en fait, chez nous, donc, du coup, moi je commercialise que des bouchons qui sont testés, voilà, donc c'est pas une option. Tous les bouchons sont testés contre le TCA, mais l'avantage aussi avec cette technique, c'est qu'ils sont testés aussi contre les autres déviations. Parce qu'on pourrait avoir autre déviation, on pourrait avoir du carton, la GSM, d'autres TCA, etc. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'elle permet de détecter d'autres. Parce que vous savez, qu'est-ce que ça sent l'écorce quand on la chauffe? Vous imaginez l'arôme que ça doit avoir normalement?
Brûlé?
Le bois brûlé?
Ah non, 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 ah, mais non, c'est l'humidité avec le bois, donc c'est un peu l'humus, non?
Non.
Si tu chauffes,
tu vas avoir de la vanille.
Ah bon?
Donc en fait, une écorce, quand elle a été chauffée, ça sent la vanille. C'est bluffant.
Ah ouais?
Ouais, ça sent la vanille. Après, ça disparaît.
Ouais.
Mais quand le bouchon il sort, tu dois avoir un arôme de vanille. Tout ce qui sort de ça, c'est une
bluffante. Quand tu sens les sacs de bouchon, ça sent un peu la vanille.
Oui. Ouais.
Et donc là, si on prend un bouchon. Et quand le fait chauffer, on devrait avoir.
Alors là, c'est les bouchons, ils ont eu un traitement final. Ouais, ça, voilà, donc ça peut modifier l'arôme. Mais avant le traitement de
Et vous n'avez jamais pensé, puisqu'on est dans la récup et tout, en ce moment, enfin, voilà, tous ces bouchons là qu'on jette, est-ce que il n'y aurait pas
bah, intérêt à les recycler,
à les recycler,
oui, tu bah, moi j'organise chez mes clients, il y a un socle pour récupérer les bouchons.
Ah, je ne sais pas.
Moi non plus.
Ils en font quoi?
Alors, bah, justement, après,
nous,
on les récupère, oui. Je vais en parler à la fin, mais je vous dirai ce qu'on en fait.
D'accord, ça y est.
Mais pour le TCA, c'est bon, vous avez d'autres questions?
Ouais.
Pour le goût de bouchon?
Non.
Non?
Et du coup, la javel, enfin le chlore, donc la javel?
Oui.
On a tendance à croire que ça...
Ça désaffecte.
Ouais.
Ouais.
Et en fait...
Non, ça sert à rien, la javel.
Ben, je sais pas, mais en tout cas, ça aide pas pour ce point-là.
Ah, ouais.
Ouais. C'est souvent on utilise le peroxyde par exemple pour désinfecter. Le peroxyde a une action désinfectante et t'évitera ce problème de l'oxygéné en fait.
Ça c'est sûr.
Ouais.
Oui, ça c'est sûr.
Et est-ce que au niveau de ta subrée, il y a des maladies qui où à partir du moment où tu as un arbre qui est touché par cette moisissure, les autres vont l'avoir aussi?
Ça peut arriver, mais en général, la biodiversité fait bien son travail et il y a un équilibre. Tu peux avoir un arbre qui est atteint, mais si nous, en forêt écossaire, tu n'as pas ce genre de problème, il n'y a pas une invasion complète parce que tu vas avoir un équilibre qui se fait.
C'est pour ça que.
Pas... Mais ça peut arriver, tu peux avoir, ce sera plutôt les moisissures le problème ou les insectes.
Et quoi, justement, tu as des attaques de nouveaux insectes? On voyait pas avant. Ouais, toi, par exemple, on voit il y a la cicadelle, il y a des choses qui apparaissent qui étaient déjà là avant, mais qui deviennent maintenant problématiques sur certaines plantes. Est-ce qu'il y a des.
Non, pas à ma connaissance. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais pas à ma connaissance. On n'a pas.
C'est pas quelque chose de genre en ce moment tout le monde se bat contre la fleurissance.
Non, nous en ce moment on se bat contre la sécheresse.
Ah oui,
ouais.
C'est trop sec.
L'an dernier, ça a été trop sec. Là, ça devrait aller, mais l'an dernier, ça a été trop sec.
Donc, du coup, c'est trop sec, là, on ne fait pas d'écorce assez épaisse, c'est ça?
Non, c'est... Oui, c'est... il peut réduire son métabolisme, mais c'est surtout qu'on ne peut pas extraire les écorces, parce que ça casse.
Ah.
Donc, on a laissé 30% de la production sur arbre. Wow. D'où l'augmentation des prix, qui est tombée en même temps que l'inflation.
Ouais.
Mais c'était corrélé au climat, en fait, pas à l'inflation. En fait, du coup... Le prix de la matière première a augmenté.
C'était pas l'Ukraine, quoi.
Non.
Sinon, c'est des clones aussi, ou c'est... nous, dans la vigne, on est obligé d'avoir des porte-greffes et on a ensuite... Des...
Alors non, je sais qu'il n'y a pas de porte-greffes, mais des clones, je ne peux pas te dire, je ne sais pas.
En termes de biodiversité, nous, on sait que la vigne est beaucoup plus touchée par les maladies parce que finalement, on fait des parcelles entières avec tous les mêmes individus finalement, donc une fois qu'il y a une maladie, elle s'en donne à cœur joie. Là,
je ne pourrais pas te dire, mais je ne pense pas.
Des individus différents en fait. Si
ouais. Je sais que c'est toujours la même, c'est toujours le carcus uber, mais après, je ne pourrais pas te dire si c'est des clones ou pas. Dans cette partie-là, je ne suis pas compétente.
Après, c'est quand même vachement extensif. D'arbres,
oui.
Sur une parcelle.
Oui, c'est
assez aéré.
Ouais.
Ouais, c'est très... Tu as de la place pour l'air, pour la diversité.
Oui. Ah oui, c'est un des spots, il y a des animaux protégés.
Et la cadence à laquelle vous récoltez, 9 ans, tu te dis, oui, la biodiversité a le temps de
s'installer. Oui. Et donc, ouais, puis c'est quelque chose qui est pris très au sérieux par le gouvernement portugais. C'est l'industrie du liège, c'est vraiment...
C'est leur grosse industrie, quand même.
Oui, ouais. Exactement. Et c'est vraiment très plus au sérieux. Ils font beaucoup de recherches pour essayer de contrer ce problème de sécheresse. Enfin, ils ont déjà anticipé depuis 10 ans. Hein. Enfin,
oui.
Ils ont commencé à planter plus haut, enfin, à voir si on pouvait écourter, enfin, parce que les arbres, peut-être qu'ils pourraient mourir plus tôt. Ils sont partis dans plein d'hypothèses, oui. Ils sont obligés. Hein.
Est-ce que ça représente la forêt? La forêt des Lièges représente combien en pourcentage par rapport au territoire de mètres carrés? Tu as une idée ou pas?
Tu vois sur le schéma qu'en fait tout le Portugal est concerné. D'accord. Mais quand tu vas au Portugal, il y a des chênes lièges partout, il y a les eucalyptus, Mais il y a partout des chaînages. Après, les forêts, quand même, les forêts elles-mêmes, par rapport à la surface, je dirais, par rapport à une image que j'ai vue il n'y a pas longtemps, je dirais un bon tiers.
D'accord. Sachant qu'il y a eu des gros incendies
oui, mais
il y a deux ans, trois
oui,
ans.
Oui, ouais. Bon, les gros incendies concernent surtout les eucalyptus.
Ah, ok.
Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chaînage qui ont brûlé, mais ça concerne surtout les eucalyptus parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment très important l'eucalyptus, surtout dans le nord du Portugal. Il y a un mélange eucalyptus-chêne-liège.
Et chêne-liège, c'est une variété différente de par exemple chêne vert ou chêne blanc.
Oui.
C'est pas un chêne blanc qui peut être liège ou un chêne vert qui peut être liège.
C'est le Quercus suber, je ne me souviens plus, mais ouais, c'est vraiment une variété et il y en a plusieurs en fait. Hein. Ouais. Je crois même en Chine, ils n'arrivent pas à faire du beau liège avec.
Comment on dit en portugais? Chêne
liège. Cortis. Ouais.
Okay. Donc j'imagine qu'au niveau économie, ça représente, pareil, je suis dans les pourcentages, quelque chose d'assez important dans l'économie portugaise.
Oui, c'est dans le pôle 3 des pourvoyeurs d'emploi. Le Portugal est le premier exportateur au monde. Il exporte, enfin, est producteur et premier exportateur. C'est lui qui produit 55% des lièges dans le monde. On voit des gens de l'industrie. C'est vraiment très important.
On s'en rend pas compte.
Non, mais je crois qu'en PIB, c'est la première industrie au Portugal, comme nous, les gros et le luxe, en fait. Il me semble que j'ai
plus. Oui, à un moment c'était dans le pôle 3, puis après ça faisait aussi tout sur le lieu.
Est-ce qu'il y a un AOC liège portugais ou est-ce que c'est revendiqué?
Non, pas que je sache, non. Après, on connaît, il y a des zones de production qui sont qui produisent certaines qualités de liège, que j'expliquais tout à l'heure, Monchique, etc. Voilà, qui produisent, c'est connu, il y a des studios, mais c'est pas, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'appellation. Il y a des noms des
années. Intéressant quand même cette notion d'appellation sur les. Ouais. Puisque tu as une notion de terroir,
ça pourrait. Donc, il y a peut-être, je l'ignore, mais moi je connais des noms de d'espaces de forêt, si tu veux, mais est-ce que c'est en appellation? C'est possible.
C'est comme le chêne français pour les dodos, c'est pas la même chose que chez les.
Mais j'irai voir, je demanderai. C'est vrai que je n'ai pas cette info, mais c'est possible. C'est possible parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des zones
qui sont reconnues spécifiquement pour leur qualité et la qualité spécifique.
Oui, en tout cas pour étant des exploitations de chêne liège. Alors, avant de finir, donc, du coup, je voulais vous parler de la garde dans le thème du vin et comment choisir son bouchon. Donc maintenant, vous savez que l'air ne passe pas à travers le bouchon, que les lenticelles sont importantes pour la densité. Et du coup, comme il faut un bouchon qui colle aux parois, il va falloir prendre en compte la bouteille et le bouchon. Et pas toutes les bouteilles sont faites pour faire un vin de garde. Et donc ça, c'est souvent une notion qui est ignorée. Mais on ne peut pas faire du vin de garde avec toutes les bouteilles. Et ça, d'ailleurs, tu m'avais pas dit qu'il y avait une bouteille. Ou sinon, on prend une bouteille pleine, je vous explique. Rapidement, pour celles qui sont concernées, ça peut vous intéresser d'avoir cette notion.
Je te raconte des conneries avec mes clients, en fait.
Pourquoi? Mais alors, toi, tu es dans un autre domaine, c'est encore autre chose, hein, Alors, donc, oui, mais c'est de l'effervescence, c'est encore différent.
Parce que en champagne, on m'a toujours dit que la bouteille, il fallait la garder allongée pour que le bouchon soit humidifié. Pour que l'effervescence ne parte pas à travers le bouchon. Et que si on la garde debout, l'effervescence s'en va plus.
Alors, je t'avoue que c'est une notion que j'entends beaucoup. Et d'après mes connaissances, ça ne devrait plus être le cas. Mais je vois que c'est encore véhiculé. Je ne peux pas te dire que non. Parce que normalement, le bouchon, il ne s'imbibe pas. Puisqu'on met un traitement dessus pour éviter que le bouchon s'imbibe de vin. Donc, il y a juste le miroir. Si tout est bien, la bouteille est bien, le bouchon est bien, la mise en bouteille se passe bien, le taux de CO2 est bon, tu as juste que le miroir. Et tu n'as pas besoin que le miroir soit imbibé pour que le bouchon y colle.
Je raconte des conneries.
Non, pas si tu veux, je vois beaucoup passer cette idée. J'ose pas dire à mes clients, vous pouvez les laisser debout.
Qu'est-ce que tu fais le miroir?
Le miroir, c'est...
C'est le fond du bouchon, en fait.
C'est le top. C'est le top du bouchon, tu vois. Ça, c'est les tops et ça, c'est le corps. Mmh. Et on appelle ça aussi le miroir. On peut aussi appeler ça le millésime, c'est là où on millésime. Voilà. C'est seulement ça qui doit être en contact avec le vin. T'as pas besoin que tout soit imbibé pour que ça s'écarte.
Non, mais c'est ça, en fait. En fait, c'est juste le miroir qui est en contact avec le vin.
Mais le miroir, il va pas gonfler pour coller aux parois, en fait. Donc, j'entends, moi aussi, cette notion qu'il faut boucher les bouteilles et tout. Je vais pas te dire non, ça sert à rien, parce que peut-être que ça sert, mais d'après mes connaissances et ce que je sais de comment on fabrique un bouchon, ça sert à rien.
Mais peut-être le bouchon de maintenant, mais le bouchon d'avant.
Voilà. Là, par contre, oui, sur des vieilles bouteilles. Ouais. Voilà. Et puis après,
et du coup, ça a perduré.
Il y a très très longtemps, on mouillait les bouchons pour. Voilà, ça se fait plus depuis des années. Hein. Même mon père, il n'a pas connu ça il y a 20 ans. Mais on en parle encore. Hein. Donc je mouille le bouchon.